Bonjour à tous. Je tiens à remercier particulièrement la Société de pneumologie libanaise ainsi que M. Faisal El Husseini pour m'avoir invité et me permettre de vous présenter aujourd'hui l'éducation thérapeutique diététique dans la prise en charge du patient BPCO. Alors, tout d'abord, pourquoi la prise en charge nutritionnelle ? Eh bien d'abord, parce que nous avons pu remarquer chez les patients BPCO qu'il y avait une forte proportion à la dénutrition. Alors avant de parler nutrition, on va d'abord parler dénutrition. Alors, d'abord, un bref rappel définitoire de la dénutrition. On va d'abord parler de quelques critères. L'IMC, le rapport poids-taille, pour les personnes de plus de 70 ans, il va s'agir d'un IMC inférieur à 20%, à 20. Et ensuite, il y aura les critères de l'HAS. Les critères de l'HAS ont été établis par un consensus médical, par des experts à qui on a demandé leur avis. Mais bien sûr, cet avis peut être très fortement, si vous voulez, agrémenté. On a retenu ces critères-là en termes de perte de poids, l'évaluation de la masse maigre également pour des IMC qui seraient supérieurs à 20. Et en cas de cachexie, bien sûr, vous aurez les paramètres biochimiques. Mais vous pourrez également avoir le MNA, donc le Mini National Assessment, le score MNA, l'IRN de Busby et les paramètres biologiques, bien sûr, sans syndrome inflammatoire. Alors, vraiment pour vous convaincre que la dénutrition fait partie du monde de la BPCO, je vais vous présenter maintenant la prévalence. Alors, cette prévalence, elle est assez importante puisqu'elle va concerner environ un patient sur deux, un patient sur trois. Et surtout en ce qui concerne l'hospitalisation. Et je crois que ça apporte de l'eau au moulin à ce que disait le docteur El Husseini tout à l'heure, c'est-à-dire la prise en charge à domicile. Ensuite, on va devoir également noter que cette dénutrition va concerner 17% des patients au stade de l'hospitalisation de longue durée, mais qu'elle va aussi, ce qu'il faut noter, c'est surtout cette perte de masse maigre et qui va concerner 38% de ces patients. Et à mon sens, c'est très très important dans la suite du traitement. Alors, par quel mécanisme ? Eh bien, ça semble quelque chose d'assez systématique, en fait, chez le patient BPCO. Tout a l'air de converger vers cette dénutrition, en fait, quelque chose d'assez inévitable. En effet, l'hypoxie chronique va entraîner cette dénutrition parce qu'il va y avoir un dérèglement total de la balance énergétique, tant d'un point de vue calorique, mais aussi d'un point de vue, micronutriments et macronutriments. Et à mon sens, ça va être aussi très, très important. Alors, effectivement, on a l'impression presque d'une sorte de boucle vicieuse. Alors, cette augmentation énergétique, elle va être liée à plein de mécanismes, et notamment l'hypercatabolisme dû à l'hypothyroïdie, ainsi qu'à toutes les cytokines inflammatoires qui sont induites. On a parlé également du syndrome dépressif qui pouvait avoir aussi une relation avec la sédentarité, sans oublier bien sûr tous les traitements médicamenteux qui peuvent accentuer la situation du patient. Alors concrètement, ce qui va vous intéresser, c'est que cette dénutrition va avoir une conséquence directe sur les critères de qualité de vie, etc., mais également sur l'altération de la mécanique ventilatoire, les échanges gazeux, donc c'est ce qui vous intéresse, vous, particulièrement, je pense, diminution de la capacité à expectorer et majoration du risque infectieux, donc l'encombrement bronchique, la diminution de la tolérance à l'effort et l'accroissement de la fatigabilité. Donc je crois qu'à partir de là, on pose déjà les bases d'une prise en charge nutritionnelle qui semble être déjà évidente à ce stade-là. Mais pour enfoncer un petit peu plus le clou, si je puis me permettre, on a carrément des études qui montrent que la prise en charge nutritionnelle va être très 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 importante dans l'établissement du pronostic vital de vos patients BPCO. Alors, ce que montrent ces études, c'est qu'il ne faut pas faire maigrir des patients en surpoids ou en obésité, en état d'obésité. Tout simplement parce que ces personnes-là ont moins de risques de mourir, tout simplement. Ça va être très très important parce que beaucoup de patients, quand ils viennent en éducation thérapeutique diététique, pensent que nous allons traiter leur petit problème calorique et leur faire un régime hypocalorique. Or, ce n'est pas du tout l'objet de notre intervention. Alors maintenant, la bonne nouvelle, c'est que l'amélioration existe. Et d'ailleurs, c'est ce que montre l'évolution du constat des méta-analyses, qui avait tendance à être prise de manière assez séparée. Et cette amélioration va jouer sur un ensemble de critères, et notamment sur les inflammations. On va aboutir à un meilleur pronostic vital et surtout à une meilleure qualité de vie. Si bien que même la Société de pneumologie française la recommande, cette prise en charge nutritionnelle. Cette prise en charge nutritionnelle, elle va avoir trois axes. L'histoire du poids, c'est-à-dire les tendances, l'IMC, le rapport poids-taille, l'impédance-métrie. Et à mon sens, l'impédance-métrie devient quelque chose de très 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 important, parce qu'une personne qui a un IMC entre 20 et 26, comment diagnostiquer sa dénutrition, sa perte de poids? Et on l'a vu précédemment, c'est vraiment l'hypercatabolisme qui va induire donc la perte musculaire et ensuite la fatigabilité qui va être important de traiter. Alors bien sûr, la supplémentation orale peut être conseillée, couplée au réentraînement à l'effort, mais nous verrons plus tard de quelle manière, afin d'éviter de faire perdre du poids, davantage perdre du poids à ce patient. Alors l'éducation thérapeutique, ça va être vraiment la méthodologie qui va être utilisée dans la démarche de soins diététiques, parce qu'elle va vraiment permettre de l'articuler. Si vous voulez, elle va permettre en réalité au patient de digérer toutes les connaissances que le diététicien va pouvoir apporter. Alors bien sûr, on doit, en tant qu'éducateur thérapeutique, diététique, paramédical ou autre, répondre à un cahier des charges de l'ARS. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être contrôlé en amont et en aval. Alors, un petit peu plus précisément maintenant, la démarche de soins diététiques. Alors, très concrètement, comment est-ce que celle-ci va être mise en place au sein du CTAR, donc le Centre des traitements des affections respiratoires à Paris? On va vraiment essayer de faire en sorte que ça soit un cheminement progressif qui va être impulsé par le médecin. Et ça, c'est très très important que le médecin soit convaincu de cet apport nutritionnel pour son patient. Et il va correspondre aux nécessités du traitement du malade BPCO. Et ça aussi, c'est très très important. Elle va se composer d'une consultation initiale, une consultation finale diététique, qui sera exposée lors des staffs transdisciplinaires et durant lesquels on décidera de l'orientation du stage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit vraiment d'éviter dans le jargon, on va dire, de griller le patient, c'est-à-dire les allers-retours métro, clinique, plus réhabilitation à l'effort, peuvent augmenter la dépense énergétique, qui n'est pas négligeable du tout lorsque vous passez d'un patient complètement sédentaire à ces petits déplacements journaliers. Donc on va mettre en place la stratégie et donc les outils. Il va être très très important de choisir judicieusement les outils, c'est-à-dire tout simplement que si vous avez des patients qui ne comprennent pas le français, tout simplement, à Paris, la population est très 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 hétérogène, hétéroclite. Alors si vous avez des patients comme cela, dans ces cas-là, il va être important d'utiliser des planches. Il va être aussi très 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 utile de parler même avec les mains parfois pour montrer les portions. Alors c'est vrai que ça peut être un peu trivial comme ça, mais ça aide beaucoup. Et ensuite, le suivi nutritionnel, on dégagera les buts éducatifs, préventifs ou thérapeutiques. En effet, tous les patients n'ont pas forcément besoin d'une prise en charge nutritionnelle du fait de leur background ou de leurs habitudes alimentaires. Et on verra si on va les diriger ou non dans les ateliers. Alors, les actions d'éducation thérapeutique, assez concrètement, elles sont bien régies, je le rappelle, par le cahier des charges de l'ARS. Hein. Donc, la chose la plus importante et le point de départ va être le recueil pertinent des informations. Et c'est ce qui permet vraiment d'établir la base entre le patient et le paramédical, et d'établir donc ce contrat éducatif qui permet d'engager le patient dans son apprentissage. On a besoin réellement de son adhésion et de son acceptation. D'ailleurs, donc je reviens juste sur le point du recueil pertinent des informations. Si les informations sont erronées, forcément, le contrat éducatif le sera aussi. On choisira alors le programme personnalisé, d'où l'importance que le contrat éducatif soit bien établi, puisque tout va se diriger vers lui. Et on choisira de planifier et de mettre en œuvre les séances d'éducation thérapeutique de manière individuelle ou collective. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des inconvénients et des avantages aux séances d'éducation collective ou individuelle. L'évaluation ensuite des compétences acquises et du déroulement du programme. Et ça, à mon sens, c'est aussi très très important, à la fois pour le patient, mais à la fois pour l'équipe médicale. Ainsi, ça permet de s'auto-évaluer en tant que soignant.
Deux minutes.
Ah bon, déjà. D'accord. Donc, l'action d'éducation thérapeutique nutritionnelle va avoir base les actions du diététicien, comme les actions de rééducation nutritionnelle, l'évaluation fine des consommations alimentaires, là encore, la question des proportions et de la fréquence est très très importante. Sur les matières grasses d'ajout, les matières sucrées également. Évaluation des difficultés pour changer le comportement alimentaire, type le travail, quand vous avez une personne qui est commerciale ou VRP qui ne peut absolument pas se poser pour aller manger un repas équilibré, il faut pouvoir en tenir compte, ou bien des personnes qui travaillent la nuit. Ensuite, l'action du diététicien va aussi concerner l'apport de connaissances, mais toujours essayer de trouver, je dirais, l'aspect motivationnel pour le patient. Il s'agit toujours un petit peu de lui mettre la carotte devant le nez, ça c'est sûr. Alors, action d'aide à la prise de décision, la négociation, la prise de conscience, le choix des priorités. Donc, on ne cherchera pas forcément à faire maigrir un patient BPCO, bien que ce soit ce qu'ils veulent. Le choix des méthodes éducatives, donc toujours sous forme d'interaction, ou bien juste d'un cours magistral, parce que certaines personnes n'ont pas l'habitude de parler pendant les séances d'éducation thérapeutique. L'action de conseil auprès des médecins aussi, donc tout ce qui est complémentarisation orale. Et là, on va avoir donc les HP, les HC, etc., et savoir exactement quoi faire. Les alternatives également aux allergies, qui commencent à être quelque chose d'assez important. Mais enfin, je dirais qu'il y a les alternatives aux allergies, mais également au régime par exemple religieux, etc., les régimes alimentaires religieux. Alors, concrètement, peut-être que ça peut vous intéresser, ça aussi. Alors, l'adaptation des consommations alimentaires, comment elle va s'articuler ? Alors, les mesures diététiques vont concerner les protéines, d'accord, mais aussi les glucides, les vitamines C, vitamine E, vitamine A, E, C, donc les liposolubles. On a vu tout à l'heure les problèmes que pouvait induire l'hypoxie chronique. Donc vitamine D, phosphore, magnésium, tout ça pour la contraction, parce qu'on a noté également l'hypocontractilité du diaphragme et le transport d'O2 via le fer. Alors là encore, on va bien expliquer au patient qu'il faudra faire attention, que s'il veut pouvoir absorber son fer, il va falloir éviter de boire du thé, tout simplement. Et ça, ça fait partie de son éducation et du recueil pertinent des informations par rapport au relevé d'ingesta, notamment. L'aide et l'accompagnement pour résoudre les difficultés quotidiennes, notamment par rapport aux dyspnées. Les dyspnées dues à la prise alimentaire, on va plutôt conseiller donc une répartition un petit peu plus variée dans la journée. Et surtout en termes de quantité, on va éviter de lui imposer une trop grande quantité à manger. Les outils méthodologiques, donc la fiche de renseignement, à mon sens, c'est vraiment cette base qui va être très, très importante. L'impédance métrie, on a la chance au CTR d'avoir une Tanita, donc la Tanita, la balance à impédance métrie, avec un logiciel qui permet de sortir les résultats avec une coloration de ces résultats qui sont très, très, très visibles par le patient. Donc il se figure tout de suite qu'il va y avoir un changement à effectuer dans son alimentation. Les questionnaires d'évaluation des connaissances, donc le diet quiz, qui est assez ludique, qui permet de challenger aussi chaque patient entre eux et de donner la direction des ateliers. L'enquête de satisfaction, c'est plus du ressenti. Le relevé d'ingesta via les planches de photos du SuviMax, pour les portions notamment, et l'atelier interactif et travaux pratiques. En général, je donne des devoirs à la maison pour vérifier que les personnes, un, soient motivées et, deux, qu'ils révisent bien leur cours sur la séance d'après. Documentation illustrée à compléter, notamment, s'il y avait des problèmes d'alphabétisation. Voilà, donc quelques outils pédagogiques. En tout cas, ça, c'est plus un outil pédagogique pour le paramédical, je dirais. C'est la fiche diététique de réhabilitation. Et la question qui va être très très importante, ça va être vraiment qui cuisine à la maison. Parce que vous aurez beau faire une éducation thérapeutique du patient, si c'est pas lui qui cuisine à la maison, vous aurez peut-être beaucoup de difficultés à le faire changer. Juste aussi également pour le comportement alimentaire, donc vérifier que la personne ne se réveille pas trop la nuit, etc., pour aller manger notamment. Si son alimentation est plutôt compulsive, etc. Donc tout ça, c'est de l'ordre du comportement alimentaire. L'enquête alimentaire, qui ne doit pas être quelque chose visible par le patient, parce que sinon, il va forcément diminuer ou changer ce qu'il mange, ça c'est sûr. Et le compte-rendu des consultations, qui va être visible par tous les autres paramédicaux, puisqu'il figure dans le dossier médical du patient pris en charge au CTR. Alors, pour conclure, la prise en charge du patient BPCO, elle nécessite forcément, voilà, je prêche pour ma paroisse, c'est normal, mais vraiment, elle nécessite une prise en charge nutritionnelle qui va respecter le surpoids et l'obésité. On l'a vu tout à l'heure, pourquoi, dans le pronostic vital. Et doit être conforme aux besoins de sa maladie. Donc par rapport notamment à tous les problèmes de traitements médicaux. Elle doit utiliser les méthodes d'éducation thérapeutique et la coopération entre les intervenants. Elle doit être personnalisée et tenir compte des difficultés connexes, parce qu'elle améliore efficacement son état général. et je vous remercie de votre attention.
Merci Mademoiselle Ralep pour cette intéressante communication. On a 2 ou 3 minutes pour poser 2 ou 3 questions parce qu'on a dépassé un peu le temps qui était consacré à cette communication. Bon, on va passer à la communication suivante et s'il y a des questions globales par la suite sur cette session, on les posera aux orateurs. Voilà. Faisal, si tu veux, tu peux prendre la suite.